Il y a un hadith qui m'avait surpris la première fois que je l'ai lu, un hadith authentique rapporté par Muslim, dans lequel Abu Huraira radiallahu anhu relate « Par celui qui détient mon âme dans sa main, si vous ne commettiez pas de péché, Allah vous aurait fait disparaître et remplacé par un peuple qui commet des péchés. Ceci afin qu'ils implorent le pardon d'Allah, exalté soit-il, et qu'il les pardonne. » C'est-à-dire que si l'on était un peuple de non-pécheurs, Allah subhanahu wa ta'ala nous aurait retirés pour nous remplacer par un peuple qui commet des péchés. Le tout couronné, bien évidemment, par sa grande miséricorde. Raison pour laquelle je vous propose que dans cet épisode, l'on parle de nos péchés et de sa miséricorde. Assalamu alaikum. Allahumma shahli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. C'est ta soeur Ikhlas, j'espère que tu vas bien et que ton âme se porte bien. Bienvenue dans l'épisode numéro 3 du podcast de Amam, en espérant qu'il puisse être bénéfique, Inch'Allah. Allah subhanahu wa ta'ala a créé différentes créatures. Il a créé les anges avec un intellect, mais pas de désir. Les animaux, eux, ont des désirs, des tentations, mais pas suffisamment d'intellect, raison pour laquelle ils vivent en fonction de leur instinct et de leurs sentiments. Et en ce qui concerne nous, les êtres humains et les djinns, Allah subhanahu wa ta'ala nous a créés dans un entre-deux. On a un intellect et on a des désirs et des tentations, raison pour laquelle on commet tous des péchés. Mais nous avons aussi en nous la tendance de la taqwa, qui consiste à retourner vers Allah subhanahu wa ta'ala, à placer une barrière entre nous et la punition d'Allah subhanahu wa ta'ala, à éviter les péchés parce qu'on aime Allah, on l'adore et on le respecte. La taqwa est aussi le fait d'avoir peur de perdre la connexion et l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala, de marcher sur cette terre en faisant attention à nos agissements. Qu'on le veuille ou non, la vie d'ici-bas est un examen. C'est Allah qui nous a créés et c'est vers lui que nous retournerons. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Il sait ce qu'on pense, il connaît nos secrets les plus profonds ainsi que nos affaires publiques. Et tout est écrit dans les moindres détails. Il nous tiendra responsable de nos actes, il est juste, mais aussi miséricordieux et punisseur pour ceux qui le méritent. Allah nous dit dans Sourate Ash-Shams, A'udhu billahi minash shaitan rajim, bismillahi rahman rahim, wa nafsin wa ma sawaha, fa alhamaha fujuraha wa taqwaha, qad aflaha man zakkaha, wa qad khaba man dassaha. Par l'âme et ce qu'il a si harmonieusement formé, lui suggérant sa perversion ou sa piété. Heureux sera assurément celui qui la purifie, et perdu sera celui qui la souillait. Allah nous a donné un intellect pour différencier le bien du mal. Ceux qui se purifient ont vaincu. Par contre, ceux qui poursuivent leurs désirs ont échoué. Et subhanallah, vous savez, on le sait. Lorsqu'on commet un péché, on le ressent. On aura beau dire non, mais en fait je ne savais pas, mais en fait si, mais en fait ça. La plupart du temps, je vous assure, on le sait et on le ressent d'avance. On parvient par l'intellect qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a offert de différencier les deux, de différencier le bien du mal. Les savants disent qu'il ne faut pas tant considérer la gravité de nos péchés, mais que l'on doit plutôt considérer envers qui nous avons péché, qui nous avons désobéi, Allah subhanahu wa ta'ala. Le péché en islam est quelque chose que Allah a prohibé, que ce soit dans le Coran ou par le biais de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dans un hadith ou les deux. C'est la différence entre le bien et le mal. On peut le rapprocher à la notion d'illégal, mais en ce qui concerne la loi d'Allah subhanahu wa ta'ala. Anas ibn Malik, qu'Allah l'agré, relate que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit « Kull ibn Adam khatta wa khayrul khatta'in at-tawwabun » Tous les fils d'Adam commettent des péchés. Et les meilleurs des pécheurs sont ceux qui se repentent beaucoup. Et subhanallah, c'est dit dans un hadith. On sait que tous les fils d'Adam commettent des péchés. Et si on part de ce postulat-là, que tout être humain, de toute manière, commet des péchés, comment est-ce que nous, derrière, on peut avoir du désespoir envers la miséricorde d'Allah? Et encore, à cette question, on y répondra plus tard, Inch'Allah. Et concernant tout cela, le professeur Bilal Asad, qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'agrée et lui fasse grande miséricorde, donnait quelques conseils pour sortir de ses péchés. Le moyen d'en sortir n'est pas de confesser, d'avouer nos péchés, ni de les exposer. Vous savez, on regarde souvent des films ou des séries ou autres dans lesquels, dans une tradition chrétienne, des personnes se rendent à l'église pour confesser leurs péchés. Et que le fait de les confesser, justement, permet de les alléger du poids de la culpabilité ou que ça facilite que leurs péchés soient pardonnés. Nous ne partageons pas cette tradition-là. Par conséquent, on se doit de ne pas les exposer parce que, subhanallah, par le fait de les exposer, certaines personnes pourraient comprendre que, ah d'accord, un tel qui est connu pour sa religiosité ou autre, l'a effectué, donc en fait ce n'est pas si grave. Or non. Il faut voir tous les péchés avec une grande gravité, de dire, subhanallah, on ne doit pas tomber dessus, on ne doit pas influencer les autres à tomber dessus et qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, nous fasse grande miséricorde pour tous ces péchés qu'on commet en connaissance de cause et pour ceux qu'on commet sans le savoir et qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, continue de couvrir tous nos péchés. Parce que, subhanallah, si Allah, subhanahu wa ta'ala, affichait à la surface de tout le monde, s'il affichait tous nos défauts, toutes nos imperfections, tous nos péchés, personne ne voudrait nous parler. Et moi, la première, je vous le dis sincèrement. Qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, nous fasse grande miséricorde et continue de couvrir tous ces péchés-là. Allahumma amin. Et du coup, je disais, le professeur Bilal Asad a donné quelques conseils dans ce sens-là. Et subhanallah, Allah, subhanahu wa ta'ala, nous dit dans le Coran, de la sourate numéro 4, qui me semble est sourate An-Nisa, il faudra que je vérifie, Inch'Allah, le verset 27 et le verset 28, dans lequel nous dit « Wallahu yuridu an yatuba alaykum, wa yuridu alladhina yattabi'una shahawat an tamillu maylan azima. Yuridu Allahu an yukhaffifa ankum, wa khuliqa al-insanu da'ifa. » Et Allah veut accepter votre repentir, mais ceux qui suivent leur tentation voudraient bien que vous tendiez grandement à vous égarer. Allah veut alléger vos charges, car l'homme a été créé faible. Allah veut accepter nos repentirs et nous pardonner. Il veut alléger nos charges. Il sait que l'être humain est faible. Il nous appartient donc de nous tourner vers Allah subhanahu wa ta'ala, de lui demander pardon. Donc le premier point est le retour vers Allah subhanahu wa ta'ala et le repentir. Et ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit de la sourate numéro 11, verset 114, « Wa aqimis salata tarafay an-nahar wa zulafan min al-layl, innal hasanati yudhibna as-sayyi'at, dhalika dhikra lid-dhakirin. » Accomplis la salat, la prière, aux 12 extrémités du jour et à certains moments de la nuit, les bonnes œuvres effacent les mauvaises, voilà un rappel pour ceux qui savent se rappeler. Donc, deuxième point, consiste à remplacer nos mauvaises œuvres par des bonnes œuvres. Il ne faut jamais laisser un péché inattendu. Il faut veiller à le regretter et le remplacer par un acte en bien. C'est-à-dire que pour chacun de nos péchés, il faut qu'on fasse un suivi. Il faut qu'on se dise, comment est-ce que moi, je peux transformer cet acte en mal en un acte en bien. Et subhanallah, j'ai parfois des sœurs qui me disent, Ikhlas, j'ai effectué beaucoup de péchés. T'imagines même pas. Et elles ont du mal à retourner vers Allah. Tellement ils ont eu l'impression de tomber bas. Mais il ne s'agit pas de tomber dans le désespoir, de continuer dans le péché parce qu'on a l'impression d'être un cas perdu. Au contraire, c'est la destruction de soi. On doit retourner vers Allah subhanahu wa ta'ala, sans jamais oublier que celui qui marche vers Allah subhanahu wa ta'ala, Allah va vers lui avec empressement. Ensuite, concernant les péchés majeurs, le professeur Bilal Asad dit qu'il faut poursuivre quatre étapes. Trois applicables à tous et une applicable dans certains cas spécifiques. La première étape, c'est celle que l'on nomme l'iqlaa, c'est-à-dire qu'il faut arrêter ce péché. Puisque comment pouvons-nous espérer qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous pardonne alors que nous effectuons toujours ce péché et nous avons l'intention de le réitérer? Ensuite, deuxième étape, c'est la phase du regret. Il faut regretter l'acte commis. Et pour finir, il faut demander pardon. Faire des ablutions, deux unités de prière et lever ses mains vers Allah subhanahu wa ta'ala pour qu'il nous permette de ne pas tomber dedans. La quatrième étape s'effectue si l'on doit quelque chose à quelqu'un. Tant qu'on n'aura pas retourné à la personne ce que nous lui avons retiré, ce qui lui est dû, on n'aura pas finalisé avec notre tawba, avec notre repentir. Si jamais on a sali la réputation de qui que ce soit et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve, on se doit de nous excuser et d'essayer d'arranger cela. Si on ne peut pas l'arranger, on essaye de faire quelque chose de bon envers eux. Faire le monde pour eux, des invocations. Si c'est quelque chose que l'on a volé, on doit le rendre ou le repayer. Si on a triché dans un échange, on doit rendre ce qui leur appartient. Le shaitan fera en sorte de nous en dissuader. Il nous dira, mais non, vas-y, tu ne dois pas t'excuser. Non, mais lui aussi, il a fait ci, ça, ça. Non, mais il y a tout un côté d'arrogance qui va vouloir gagner cette partie-là. Mais non. On se doit de rendre le haq, on se doit de rendre le droit à toutes ces personnes envers qui on a pu faire du mal. Et bien évidemment, s'excuser. Et maintenant, il est temps de vous partager un de mes versets préférés qui nous servira de transition, Inch'Allah. C'est le verset qui se trouve dans la sourate numéro 39, le verset 53, qui dit « قُلْ يَا عِبَادِ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَتُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ » dit « Ô vous, mes serviteurs qui avez été excessifs envers vous-mêmes, ne désespérez point de la miséricorde d'Allah, car Allah pardonne tous les péchés, lui qui est l'absoluteur, le tout miséricordieux. » Comment peut-on perdre espoir avec ce verset-là? Sérieux, comment peut-on penser qu'Allah ne nous pardonnera pas alors qu'il nous a révélé ce verset? Et subhanallah, c'est un des versets qui me transmet le plus de paix. Retournons vers Allah subhanahu wa ta'ala. Demandons à Allah de ne pas nous abandonner, de nous pardonner, de nous faire miséricorde. Et d'ailleurs, par sa grande miséricorde, il y a plein d'actes qui effacent nos péchés. Que ce soit les ablutions, l'aumône, le jeûne, être bon envers les autres, etc., etc. La liste est longue, alhamdoulilah. Ne serait-ce que le fait qu'avoir un bon acte envers son voisin, le fait de sourire, le fait d'enlever un obstacle de la route. Ça peut être des actes qui nous permettront justement d'atteindre la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. En ce sens, en le sens de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala, il est relaté qu'un jour à Médine, une mère perd son enfant. À cette époque-là, il n'y avait pas de bureau de police. Si un enfant est perdu, il est perdu. Et durant des semaines et des mois, cette mère cherche son enfant de partout. Et je vous demande, quel est le ressenti d'une mère qui perd son enfant? On le sait, ne serait-ce que 5 minutes sans savoir où son enfant se trouve, la mère commence déjà à paniquer. Mais imaginons alors des jours et des semaines. Mais il arriva un jour à Médine où, alhamdoulilah, la mère retrouva son enfant. Elle s'est donc empressée vers lui et tout en pleurant, elle enlace son enfant. Et il est dit que notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam se retourna vers ses compagnons ému par la scène qu'il venait de visionner et dit à ses compagnons « Pensez-vous que cette femme irait jeter son enfant dans le feu ?» Ils répondirent « Non, par Allah !» Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dit alors « Allah est certes plus miséricordieux envers ses serviteurs qu'une laisse cette mère envers son enfant. » Pour vous dire, subhanallah. Et vous avez sûrement déjà entendu l'histoire de l'homme qui tua 99 personnes. Combien d'entre nous comprenons réellement la signification? Cette histoire n'est pas à propos de l'homme en question, mais plutôt à propos d'Allah subhanahu wa ta'ala, à propos de sa miséricorde. Et très rapidement, pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire, il s'agit d'un homme qui tua 99 personnes et cherchait à rencontrer le plus grand savant sur terre pour se repentir. On lui indiqua un moine. Il se rendit auprès de lui et lui dit « J'ai tué 99 personnes et voudrais savoir si je peux me repentir. » Et le moine lui répondit négativement. Il lui dit « Mais ça va pas, enfin, c'est 99 personnes quand même. » Alors, il le tua pour porter le nombre de ses victimes à 100. Du coup, il a tué au total 100 personnes. Ensuite, il demanda à rencontrer le plus savant sur terre. Orienté vers ce dernier, il lui dit avoir tué 100 personnes et demanda s'il pouvait se repentir. Le savant lui dit « Oui, qu'est-ce qui pourrait vous en empêcher ?» Ensuite, il lui donna l'ordre de se rendre vers une terre où se trouvaient des gens qui adoraient Dieu afin de faire comme eux. Et il lui dit de ne plus retourner dans un pays connu comme étant une terre de mal. Et là, je fais une petite parenthèse en disant « Subhanallah, ne serait-ce que là, on a déjà une grande leçon de dire « Si j'ai envie de me détacher de certains actes considérés comme des péchés, il faut que je m'éloigne de ces endroits où ce péché est normalisé, de ces endroits où ces péchés s'effectuent en continuité. » Et ensuite, l'histoire continue, et l'homme se mit donc en route, et quand il arriva à mi-chemin, la mort le saisit. Les anges de la miséricorde et ceux chargés du châtiment se disputèrent pour savoir qui l'emportait. D'un côté, les anges de la miséricorde disaient Mais il a fait ça ou pas? Il s'est repenti et était résolument orienté vers Allah subhanahu wa ta'ala. Alors que les anges chargés du châtiment, ils dirent, il n'a rien fait de bon dans sa vie. Il a tué 100 personnes. C'est alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala envoya un ange et lui dit, mesure la distance qui sépare l'endroit où il est mort de son point de départ et de sa destination. Il sera traité dans l'au-delà selon la terre à laquelle il est le plus proche. Une fois la distance mesurée, on trouve qu'il était plus proche de sa destination. Il fut ainsi saisi par les anges de la miséricorde, subhanallah. Mais en fait, si on y réfléchit véritablement, est-ce qu'Allah aurait pu le faire mourir plus proche de l'endroit de départ? Absolument. C'est pourquoi ce hadith est à propos d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Vous savez, Allah, subhanahu wa ta'ala, décide quand est-ce qu'on va décéder et à quel moment est-ce qu'on va décéder. Et très honnêtement, si Allah subhanahu wa ta'ala aurait voulu qu'il décède plus proche de la terre du départ, il l'aurait fait. Et pourtant, par sa grande miséricorde, malgré qu'il ait tué 100 personnes, étant donné qu'il avait cette volonté-là de se repentir, il a fait qu'il décède plus proche de cette terre de bien afin de pouvoir lui faire miséricorde. Et ça en dit long, subhanallah, sur la grande miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais ce n'est pas tout. Dans un hadith authentique, il est relaté par Abu Huraira, radiallahu anhu, une parole qu'il a attribuée au messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, qui dit « Allah a réparti la miséricorde en 100 parties. » C'est-à-dire que la miséricorde aurait 100 portions. Mais bien évidemment, c'est une valeur quantitative pour que l'on puisse mieux comprendre. On le sait, Allah subhanahu wa ta'ala est le plus miséricordieux des plus miséricordieux. Sa miséricorde est infinie. Et bref, il en conserve 99 auprès de lui, ce qui est énorme, et on fit descendre une seule sur terre. C'est-à-dire, imaginons qu'il y a un 100% de miséricorde et que seulement 1% de cette miséricorde-là a été descendue sur la terre. Mais ce n'est pas tout. Elle a été descendue sur la terre depuis son début jusqu'à la fin des temps. Et elle a été descendue non pas seulement pour les êtres humains, mais pour toutes créatures confondues. Et subhanallah, c'est grâce à cette portion de miséricorde, cette portion de rahma, que les créatures font preuve de miséricorde les unes envers les autres. C'est la raison pour laquelle nous pouvons être miséricordieux envers l'autre, au point même que la bête soulève sa patte de peur d'écraser son petit. Vous imaginez? Subhanallah. Et ça, c'est 1%. Et il est dit que le restant sont laissés pour le jour du jugement dernier, subhanallah. Pour vous dire à quel point est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala est miséricordieux et à quel point on ne doit pas douter de sa grande miséricorde. Puisque douter de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala est une insulte envers Allah subhanahu wa ta'ala. Et je vais vous dire pourquoi. Parce que, en fait, si on doute de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala, on serait en train de dire que moi et mes péchés sont plus grands que la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Or, comme on l'a vu, la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala est infinie. Donc, le calcul n'est pas bon. Et avant de vous quitter, je vous laisserai avec une invocation connue comme étant la meilleure des manières de demander miséricorde à Allah subhanahu wa ta'ala. Elle est connue comme Sayyidul Istighfar, le maître de la recherche du pardon. Si tu la prononces avec certitude le matin et le soir et tu décèdes, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit que tu seras certainement parmi les habitants du paradis. Du coup, voilà, ça en vaut la peine. C'est rentable d'apprendre cette invocation. Et elle dit Allahumma anta rabbi, la ilaha illa ant, khalaqtani wa ana abduk, wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'at, a'udhu bika min sharri ma sanat, abu laka bi ni'matika alay, wa abu laka bi dhanbi faghfir li, fa innahu la yaghfiru dhunuba illa ant. Dans la traduction est la suivante, c'est celle qui dit « Oh Allah, tu es mon Seigneur, nulle divinité ne mérite d'être adorée si ce n'est toi. C'est toi qui m'as créé et je suis ton serviteur. Je suis soumis à tes promesses autant que je le puis. Je cherche refuge auprès de toi contre le mal que j'ai commis. Je me rends devant toi avec les bienfaits dont tu m'as comblé et je me rends devant toi avec mon péché. Pardonne-moi, car nul autre que toi n'absout les péchés. » Subhanallah. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous pardonne, qu'il nous fasse grande miséricorde, qu'il nous rapproche de lui et nous permette de délaisser tous nos péchés et de ne pas y retomber. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Qu'Allah te protège, qu'il te préserve et qu'il t'aime très très fort. C'était ta sœur Ikhlas pour l'épisode 3, Nos péchés, sa miséricorde, du podcast de Hamam. Fi amanillah. À très très vite, Inch'Allah. Prends bien soin de toi et surtout, prends bien soin de ton âme. Assalamu alaikum.